18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Nicolas Sarkozy condamné à de la prison ferme dans l'affaire des écoutes, c'est l'un des principaux titres de la soirée. C'est aussi le premier ancien président à être reconnu coupable de corruption.
Oui, l'ancien chef de l'État qui écope de 3 ans de prison, dont un ferme, annonce qu'il va faire appel. Même peine pour l'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert.
Pour Nicolas Sarkozy, c'est un coup dur. Pour ses partisans qu'il imaginait en sauveur de la droite pour 2022, c'est une catastrophe.
On ferme. À partir de ce soir minuit, l'Allemagne va filtrer sévèrement sa frontière commune avec la Moselle. Même les travailleurs frontaliers sont concernés.
À Paris, Anne Hidalgo consulte les préfets et les autorités sanitaires. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, fait la même chose de son côté. À chaque fois la même question, faut-il renforcer les restrictions?
Vers un passeport sanitaire européen, la question fait débat. Bruxelles prépare un projet de loi pour permettre de voyager au temps du Covid.
La déprime du marché automobile dont les ventes ont chuté de 21% le mois dernier, mais l'hybride tire son épingle du jeu. Et puis la Bourse de Paris termine en hausse de 1,57% à 5 792 points.
La météo avec Anissa Haddadi, notre soleil du jour, c'est vous Anissa. Et ce soleil, il va continuer demain. Bonsoir à vous.
Oui, nous aurons encore beaucoup de soleil demain après la dissipation des brouillards sur la moitié nord. Les trois quarts du pays seront sous le soleil, sauf la pointe bretonne et les pays de la Loire. Mais je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il était présent à l'audience, il est un peu plus de 13h30 lorsque la présidente du tribunal correctionnel de Paris lit le jugement. Coupable, Nicolas Sarkozy est condamné à 3 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire des écoutes.
Oui, un coup dur pour l'ancien chef de l'État et son entourage. Nicolas Sarkozy qui ne s'est pas attardé évidemment au palais de justice après la lecture du jugement. Gladys Laffitte, il est reconnu coupable donc de corruption, de trafic d'influence. C'est une première pour un ancien président de la République.
Oui, c'est aussi la première fois qu'un ancien chef de l'État est condamné à de la prison ferme. Et le tribunal a motivé cette décision car les faits sont d'une particulière gravité. Parce que Nicolas Sarkozy, qui a été, je cite, le garant de l'indépendance de la justice, s'est servi de son statut, des relations politiques et diplomatiques qu'il avait tissées pour gratifier un magistrat, Gilbert Azibert, ayant servi son intérêt personnel. Pour les juges, il a consciemment agi frauduleusement au travers d'un pacte de corruption noué avec ses 2 coprévenus. Nicolas Sarkozy s'en est pourtant toujours défendu à l'audience et encore aujourd'hui puisqu'il annonce faire appel de ce jugement par la voix de son avocate, maître Jacqueline Lafont.
Il est déterminé à poursuivre la démonstration de son innocence dans cette affaire. Il est déterminé à poursuivre devant la cour d'appel ces démonstrations que nous avions faites devant le tribunal et qui manifestement n'ont pas été reprises en compte par cette décision.
Alors les juges sont donc allés dans le sens du parquet national financier, même s'il avait requis 4 ans de prison, dont 2 fermes à l'encontre des 3 prévenus. Les procureurs avaient porté l'accusation jusqu'au bout, malgré une audience tendue, virant parfois à la confrontation avec les avocats de la défense. Le patron du PNF, Jean-François Bonnert, était même venu requérir. Il était d'ailleurs présent à la lecture du jugement aujourd'hui.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Sur le plan politique, et même si cette condamnation n'est pas encore définitive, elle n'en constitue pas moins un gros caillou dans la chaussure de l'ancien président.
Oui, Nicolas Sarkozy, c'est vrai, n'avait encore rien dit sur ses intentions pour 2022, mais à droite, beaucoup en faisaient le candidat du recours pour la présidentielle. On parlait même d'hypothèse Nicolas Sarkozy. Louis Dragnel, ce jugement risque de rebattre évidemment les cartes.
Évidemment. Alors, pour le moment, à droite, on encaisse le choc entre stupéfaction et colère. D'ailleurs, j'ai demandé à l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui vice-président des Républicains, Olivier Marleix, à qui peut profiter politiquement cette décision de la justice ?
Donc, toute évidence, pas à la droite qui voit en 2017 et aujourd'hui ses principaux champions éliminés de la campagne présidentielle. Le PNF s'invite et la justice aujourd'hui, au-delà du PNF, s'invite de manière à l'évidence choquante dans notre fonctionnement démocratique.
Mais déjà à droite, et notamment dans les entourages de Bruno Retailleau, Valérie Pécresse ou encore de Xavier Bertrand, on pense à l'après, comme ce député Les Républicains qui, jusqu'à cette décision de la justice, défendait le retour de Nicolas Sarkozy. Eh bien maintenant, il plaide pour avancer le calendrier de désignation du candidat de la droite pour la prochaine présidentielle.
Alors, est-ce que ça peut arranger la Macronie, cette affaire ?
Alors oui, et Emmanuel Macron ne pourra jamais le dire comme ça, mais cette condamnation de Nicolas Sarkozy éclaircit son horizon politique. C'est donc un obstacle en moins, une bonne nouvelle pour lui. Car depuis le début du quinquennat, la Macronie suit les moindres faits et gestes de l'ancien chef de l'État comme le lait sur le feu. Maintenant qu'il est presque acquis que Nicolas Sarkozy ne se présentera pas en 2022, eh bien Emmanuel Macron n'a plus qu'une obsession, essayer de récupérer ses électeurs.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. La crise sanitaire en Moselle, département très touché par les variants sud-africains et brésiliens, on peut vraiment parler d'embouteillage à la porte des pharmacies et des laboratoires.
Oui, par conséquent, l'Allemagne a décidé de filtrer les entrées sur son territoire depuis ce département. À partir de ce soir minuit, il faudra donc montrer un test Covid négatif de moins de 48 heures pour franchir la frontière allemande.
Et c'est aussi valable pour les milliers de travailleurs transfrontaliers. Et depuis ce midi, c'est une véritable ruée dans les laboratoires pour passer un test antigénique. Mélina Fachin est allée à Sarreguemines, à une dizaine de minutes de la frontière. Reportage.
Devant tous les laboratoires de la ville, des dizaines de travailleurs frontaliers font la queue sur le trottoir.
Là, ça m'embête un peu parce qu'il y a une heure, je pense qu'il y a au moins une heure d'attente.
Agnès travaille dans des écoles primaires en Allemagne. Elle doit impérativement avoir son test négatif pour demain et elle est très en colère.
J'ai l'impression d'être une pestiférée, quoi. Si je dois venir tous les 2-3 jours, je sais pas. Sinon, l'autre solution, c'est de me mettre en arrêt, mais ce n'est pas ma façon de faire, quoi. Je ne sais pas quelles sont les sanctions, mais je n'ai absolument pas envie de me faire reconduire à la frontière comme une malpropre, quoi.
Certains labos ont reçu 5 fois plus de patients qu'un jour de Covid normal. Même son de cloche dans cette pharmacie du centre-ville et qui propose des tests antigéniques.
La semaine dernière, j'étais à peu près à 5-6 patients dans la journée. C'était tranquille. Et là, j'en suis, je pense, déjà à ma trentaine de tests depuis ce matin.
Marie-Christine, la pharmacienne, est épuisée.
J'ai déjà le carnet qui est rempli, je crois, toute la semaine. Donc, si vous voulez, j'ai complètement changé de métier, moi. Je fais que des tests. Voilà, je pense que je vais bien dormir ce soir.
À ce rythme, tester tous les 2 jours les 16 000 Mosellans frontaliers lui paraît tout simplement intenable.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans l'Est de la France. À Paris, Anne Hidalgo refuse le confinement de la capitale et de sa petite couronne le week-end. Elle l'a dit au préfet tout à l'heure à l'occasion d'une réunion.
Oui, la maire de Paris a tenu un point presse pour s'en expliquer. Anne Hidalgo était forcément très attendue. Cette fois, Claudia Bertram, il semble que la proposition d'un confinement strict de 3 semaines ne fasse plus du tout partie des priorités de la maire.
Oui, absolument. Comme pour clore la polémique, Anne Hidalgo l'assure, nous n'avons pas proposé de confinement strict de 3 semaines. Ce n'est pas une hypothèse sur laquelle nous avons travaillé, affirme-t-elle. En revanche, la maire de Paris se dit fermement opposée à un confinement le week-end.
Le préfet de police m'a questionné sur la proposition du gouvernement visant à confiner Paris et la petite couronne le week-end. J'ai dit mon désaccord avec cette proposition. Une proposition que je trouve difficile, dure, voire même inhumaine.
Anne Hidalgo a ensuite détaillé une série de propositions parmi lesquelles faire court la fenêtre ouverte, faire court en extérieur lorsque cela est possible. Les squares et jardins publics de la capitale pourront être mis à disposition pour cela. La maire de Paris propose aussi d'ouvrir des lieux supplémentaires aux étudiants pour qu'ils puissent réviser dans les musées, théâtres, maisons de vie associative ou encore gymnases. Et puis Anne Hidalgo demande à multiplier par 4 les quantités de vaccins dans la métropole parisienne.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. La Haute Autorité de Santé va peut-être réviser son jugement sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans.
Oui, on rappelle qu'ils en sont privés pour l'instant, mais la Haute Autorité annonce qu'elle va actualiser ses données en référence à une étude de l'Université d'Édimbourg en Écosse qui vient de démontrer l'efficacité de ce vaccin AstraZeneca chez les plus de 80 ans.
Alors, on savait que le confinement et l'économie n'allaient pas bien ensemble. Confinement et pratiques sportives non plus. Selon le baromètre du Crédoc, 38% des Français ont réduit leur activité physique à cette occasion. 20% ont quand même fait plus de sport. La randonnée, la marche, le footing, la gymnastique et le vélo dans cet ordre sont les activités les plus pratiquées.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal Christophe Lamar, 18h09. L'Europe, ça y est, va mettre sur pied un passeport sanitaire pour voyager en temps de Covid.
Et on y voit enfin un peu plus clair. On sait que la Grèce et l'Espagne y étaient favorables. Cette fois, c'est officiel. La Commission européenne, avant la fin du mois, va mettre en place un pass sanitaire pour nous permettre de voyager cet été. Isabelle Horry, attention, ce ne sera pas un passeport réservé à ceux qui sont vaccinés.
Non, parce que ça, la France et d'autres pays européens n'en veulent vraiment pas. Pas question de donner des droits en plus aux seuls vaccinés. Donc, ce que Bruxelles prépare, ce n'est pas un passeport vaccinal, mais un passeport sanitaire. C'est plus large. La présidente de la Commission européenne l'appelle le passeport vert. Vert comme un feu vert. Selon Ursula von der Leyen, il aura vocation à contenir votre situation vaccinale, mais aussi le résultat de votre dernier test ou le fait que vous ayez des anticorps si vous avez eu la maladie. L'idée, c'est de tout regrouper sur un support électronique unique, utilisable partout en Europe. C'est pas encore tranché, mais ça sera sans doute un QR code, m'a expliqué un spécialiste du dossier. Ce code pourra être scanné à l'arrivée ou pendant votre séjour à l'étranger. L'idée, c'est qu'il devienne un sésame pour circuler à nouveau sur tout le continent européen.
Et comment ça va s'organiser avec le fameux pass sanitaire qu'Emmanuel Macron lui veut mettre en place chez nous en France ?
C'est le même concept hein, et ça sera sans doute le même support. L'Europe s'occupe de la plateforme technique commune et des usages pour les voyages et chaque pays doit décider lui de l'usage chez lui, accès aux restaurants, aux musées, etc. L'objectif, assez ambitieux vu le temps qui reste, c'est donc d'avoir tout ça en place pour l'été prochain.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Merci à vous.
Le marché automobile continue de déprimer. Les ventes ont encore chuté le mois dernier.
Oui, la baisse atteint 21% en février. C'est catastrophique. Tous les constructeurs sont touchés. Mais il y a quand même un fait notable et c'est en même temps une confirmation. C'est la percée des véhicules hybrides, Aurélien Fleureau.
Oui, et c'est clairement une tendance de fond. Mois après mois, la part des moteurs thermiques diminue dans les ventes de véhicules neufs. Et en février, ce sont surtout les modèles hybrides et hybrides rechargeables qui ont effectivement progressé pour atteindre à eux deux 23% du marché, selon les chiffres du spécialiste de la donnée 3A Data. 23% contre désormais un petit 25% seulement pour le diesel, qui continue logiquement sa chute, puisque les modèles neufs ne proposent plus systématiquement cette motorisation. Et c'est une évolution durable, selon François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles.
On pourrait très bien penser que l'hybride rechargeable va progressivement remplacer le diesel. Alors, pas totalement, puisqu'on sait très bien que le diesel reste excessivement performant sur les gros rouleurs, mais on voit que les hybrides rechargeables trouvent leur public.
Le 100% électrique est en revanche en légère baisse sur un an, d'abord parce que les chiffres de février 2020 avaient été très bons, et ensuite parce que le réseau de bornes de recharge publique n'est pas encore de nature à suffisamment rassurer tous les automobilistes qui préfèrent attendre. Un attentisme général d'ailleurs, épargner plutôt que dépenser. Cela explique aussi en partie cette baisse du marché de plus de 20% sur un an.
Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Le football, l'ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, interpellé dans le cadre de l'enquête sur le Barça Gate. Plusieurs joueurs, dont la star Lionel Messi, s'étaient retrouvés visés par une campagne de calomnie sur les réseaux sociaux. Derrière cette opération, une société travaillant pour le Barça. Trois anciens ou actuels dirigeants ont également été arrêtés. On n'a pas encore les noms.
Merci pour ces précisions. C'était le journal de Christophe Lamarre. La météo avec Anissa qui nous annonce encore du soleil demain, mais un peu de brouillard avant cela.
Oui, au nord de la Loire, Julien, nous aurons des brouillards de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, dans le nord, la région parisienne et jusque dans le Val-de-Saône. Voilà, les brouillards seront nombreux demain matin, mais bonne nouvelle, ils ne tiendront pas et vont très vite se dissiper. Dans le sud, toujours dès le début de la journée, le vent d'autant qui souffle et ça va durer toute la journée avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Dans l'après-midi, vous le disiez, le soleil s'impose sur tout le pays avec une petite dépression qui va tout de même toucher la pointe bretonne avec quelques petites gouttes sur le Finistère et les Pays de la Loire demain après-midi. Les températures, alors elles sont fraîches le matin puisque nous aurons moins 3 degrés au Puy-en-Velay, moins 2 à Nancy et Montluçon, moins 1 Clermont-Ferrand, 1 degré à Lille et Lyon, 3 à Paris, 6 à Brest et Nice, 7 degrés à Bordeaux et 10 à Toulouse. Dans l'après-midi, il fait toujours aussi doux. On aura 13 à 17 degrés sur la moitié nord, 17 degrés pour Paris demain et 15 à 19 degrés sur la moitié sud. La maximale est prévue pour Clermont-Ferrand avec 19 degrés, même si la barre des 20 degrés risque d'être franchie demain sur le Pays Basque.
Mais attention, voilà. Rangez pas les bonnets, les doudounes, parce que mon petit doigt me dit qu'en fin de semaine, le froid revient.
Alors c'est ça.
Un peu trop tôt pour le dire.
Non, mais on va avoir du très beau temps jusqu'à jeudi. Oui. Jeudi, retour de la pluie. Ça va être très bref, jeudi, vendredi. Et ce week-end, soleil, mais grosse fraîcheur.
Bien, on a le temps encore. Profitons des beaux jours. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour un nouveau point sur le temps.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes. Notre invité, pourra-t-on échapper à un reconfinement national ? Eh bien, on lui posera la question. Certains en doutent. On posera la question donc à la professeure Anne-Claude Crémieux. Elle est notre invitée à 18h20. Tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.